Ah, et c'est vendredi. Là, je vous avoue tout de suite, là, il y a un petit peu d'excitation dans l'air parce que c'est notre dernière de l'été, Isabelle Maréchal, qui sera de retour à compter de lundi. On peut dire que c'est presque la rentrée la semaine prochaine, officiellement du 98.5. Écoutez, je vais être encore là au 98.5. Là, je pars deux semaines en vacances et je serai de retour le 4 septembre pour un autre beau défi, chronique culturelle divertissement à l'émission de Paul Arcand. Et je vous le dis tout de suite, on va commencer ça de très, très belle façon avec mon collègue Marc Brière, que je vais retrouver le 4 septembre.
Oui.
J'essaie d'être positive. Marc, parce que je sais qu'en fin de semaine, ça sera pas facile sur les routes.
Est-ce que tu as circulé à Montréal en fin de semaine?
Un petit peu. Rive-Sud, Montréal, on va se promener un peu.
Ben, les traversées de la Rive-Sud, ça devrait être pas si mal. Il va y avoir des travaux, c'est souvent le cas. Les gens qui circulent régulièrement à Montréal depuis un temps, c'est plus que difficile. J'admettais moi-même au début de la semaine, en commençant avec le matin avec Paul Arcand, je disais, bon, cet été, je suis resté au Québec, j'ai roulé beaucoup, mais j'ai tout fait pour éviter Montréal. De la Rive-Sud, le plus loin que je suis allé à Montréal, c'est la Ronde. Ça vous donne une idée?
Parce que j'en pouvais plus.
Ouais, ça m'a fait du bien. C'est comme un sevrage de congestion et de problèmes de circulation. Mais depuis le début de la semaine, on est retombé dedans, comme on dit. Et donc, en fin de semaine, oui, il va y avoir pas mal de travaux. Ce sont les secteurs habituels. L'échangeur Turcot, le corridor du pont Champlain. Il va y avoir des travaux au niveau de l'autoroute 13. Et il y a l'Ironman de Tremblant au nord. Oui. Je vous donne ça dans le détail un peu plus précisément. 720 Ouest, qui est l'autoroute Ville-Marie, à partir de la sortie pour l'autoroute Bonaventure, en tunnel jusqu'à l'échangeur de Ville-Saint-Pierre. C'est une fermeture complète. Et évidemment, les bretelles qui mènent à la 20 Ouest seront fermées aussi. Dans l'autre direction, vers l'Est, à partir, donc 720 Est, vers le centre-ville, à partir de l'échangeur Turcot, jusqu'à l'entrée Notre-Dame-Cathédrale, qui se trouve également en tunnel. Tout ça, ça va être fermé. Et encore là, bretelles 15 Sud, 720 Est, 20 Est, 720 Est et 20 Est, 15 Nord, ce sera fermé. Si ça va trop vite, prenez des notes.
Écoute, c'est complètement fou. Je t'écoute, là. Je me dis, OK, on va rester à la maison, finalement?
Ben, il y en a qui font choix, là. Depuis un temps, il y a des gens qui des gens de la Rive-Sud ou de la Couronne-Nord qui disent, nous, on essaie d'éviter Montréal pour une raison simple, c'est une question de santé mentale. Il y en a pour qui c'est... Non, mais plus sérieusement, des gens qui, quand on est pris jour après jour dans la congestion, au niveau des énormes bouchons de circulation, je peux comprendre que la fin de semaine, on prend un petit break. Autre secteur important à prévoir pour le week-end, c'est le corridor du pont Champlain. Fermeture complète sur la 15 Nord entre la sortie pour l'autoroute Bonaventure et le secteur du boulevard Gaétan-Laberge. C'est pas très long en termes de kilométrage, mais c'est quand même une entrave importante parce que de un, c'est complètement fermé, et de deux, c'est un endroit fort achalandé qui vient toucher la sortie du pont Champlain pour entrer en ville. Donc, détour imposé à cet endroit. Ceux qui vont circuler 15 Nord en direction de Turcot, vous le savez, depuis un temps, il y a une voie sur trois qui est retirée à temps plein. Mais pour la fin de semaine, on va en retirer une deuxième voie sur trois. Donc, une seule voie, goulot d'étranglement à prévoir, 15 Nord pour l'autoroute des Carinards. Ça aussi, ça risque d'être assez difficile. Pour les usagers de l'autoroute 13 en direction sud, il va y avoir une fermeture entre la 40 et l'autoroute Côte-du-Liesse. À partir de ce soir, 23h jusqu'à lundi, 5h, des tours imposés, des bretelles de fermées. Alors que dans l'autre direction, même coin, mais des fermetures de nuit. C'est quand même un moindre mal. À partir de 8-9h le matin, vous allez pouvoir y aller. C'est sûr que la nuit, il y aura des détours, mais il y a moins de volume de circulation. Donc, ça devrait, en toute logique, se faire un peu mieux. Et je vous parlais de l'Ironman de Tremblant. Si vous pensiez aller faire une balade en voiture dans le secteur de Tremblant en fin de semaine, si c'est pas pour aller à l'Ironman, oubliez ça. Non, c'est pas la place. Parce que c'est une fermeture de la 117 entre le kilomètre 117 qui est à la ville de Mont-Tremblant et c'est jusqu'au kilomètre 143 du côté de la Belle de 6h à 20h dimanche, cette fin de semaine. Alors sérieusement, si l'Ironman vous intéresse, si vous avez affaire, OK, mais si c'est pour aller faire une balade de santé, oubliez ça. C'est toujours très, très difficile et quand ça se termine, il y a beaucoup de monde sur la route qui reviennent en ville. L'après-midi, la fin de journée du dimanche pour rentrer à Laval et Montréal, ça risque d'être un petit peu achalant.
Ben avec tout ce que tu viens de nous dire, je pense qu'on va avoir besoin d'un vrai petit cocktail pour commencer la fin de
semaine.
Ça tombe bien parce qu'à 11h30, on va terminer justement cet été de très, très belle façon avec Fanny Gauthier qui sera là pour nous proposer des recettes de cocktails, mais aussi on a pensé aux gens qui ne prennent pas d'alcool avec des mocktails. La nouvelle version, il paraît que c'est hyper bon aussi, donc on va pouvoir en profiter. Je sais, Marc, tu aurais aimé être en studio à 11h30.
Ouais, c'est malheureux, je ne peux pas.
Mais ben oui, c'est de valeur. Hein?
Essayer de remplacer le rendez-vous.
Oui, c'est ça.
Je peux me pointer si jamais j'ai... Oui?
Pas de problème.
Okay,
t'es toujours le bienvenu. Merci beaucoup, Marc Briac. On peut retrouver, bien sûr, à la circulation 98.5 et dans l'équipe de Paul Arcand. Ensemble, d'ailleurs, dès le 4 septembre, je le rappelle. Et on commence cette première heure avec un sujet, évidemment, qui me passionne. Vous savez, je suis amateur de technologie et aussi de santé. On dit des fois les deux, est-ce que ça va bien ensemble? On n'est pas toujours certain que la techno et la santé, ça va bien. Selon un sondage publié par l'Association médicale canadienne, 75 % des gens croient que les nouvelles technologies pourraient justement aider à résoudre plusieurs problèmes dans le système de la santé. Et là, c'est pas des farces. Je l'ai vu et je sais que ça se fait encore. Il y a des gens qui utilisent beaucoup le fax pour le système de la santé, que ce soit pour avoir des résultats. On veut même pas avoir le courriel. Et même aller sur l'ordinateur, ça semble être compliqué à certains endroits. C'est pas partout, vous allez me dire, mais quand même, est-ce qu'on devrait en faire plus? Est-ce qu'on devrait justement se mettre à jour au milieu de la santé? On va en parler avec Dr. Yannick Beaulieu. Bonjour Yannick, merci d'être là.
Bonjour, merci.
Cardiologiste, intensiviste et fondateur de technologies innovatrices d'imagerie, donc un docteur techno, on peut appeler ça comme ça?
Effectivement.
Et aussi Éric Parent, PDG d'Aiva Technologies et enseignant à la Polytechnique et au HEC au programme de cybersécurité. Bonjour Éric.
Bonjour.
Docteur Beaulieu, vous avez à travailler avec la technologie, je le disais, on peut dire un docteur techno parce que vous êtes aussi fondateur, vous êtes dans le milieu de la technologie depuis longtemps aussi. Vous avez fait la plateforme React, que j'ai testée d'ailleurs, avec la réalité virtuelle pour l'échographie. J'étais vraiment pourrie, là, je tiens à le dire. Là. Par chance, je ne me suis pas lancée dans le milieu
non,
de la santé.
Pas bonne.
en tant que cardiologue et intensiviste, vous avez quand même utilisé la technologie à tous les jours là, avec les patients, d'une
oui.
certaine façon. Là.
Tout à fait. En fait, l'utilisation de la technologie en santé est maintenant vraiment à 360 degrés, autant pour les médecins que pour le reste de l'équipe de soins, que ce soit l'infirmière coordonnatrice de soins, que ce soit pour la physiothérapeute, la nutritionniste, le psychothérapeute. Donc, à l'ère surtout de beaucoup de maladies chroniques, le suivi des patients est vraiment fait par une équipe dont, en fait, le médecin est souvent une des petites parties parce que beaucoup des soins dans la vie quotidienne est faite par l'équipe de soins. Et donc, l'idée était de pouvoir, comment on peut allier les technologies pour impliquer toute l'équipe de soins et, bien sûr, le patient, pour aider à avoir un meilleur accès aux soins, diminuer les coûts, diminuer les déplacements, puis augmenter l'efficacité du système. Fait qu'au fil des ans, dans les 15 dernières années, à être dans le milieu et à se poser des questions, j'en suis venu à un moment à dire, développons cette technologie-là avec une équipe du Québec, bien sûr, pour pouvoir aider à amener la virtualisation des soins de façon, bien sûr, simple, sécuritaire et à bas coût. Et on se rend compte, avec l'étude, entre autres, de l'Association médicale canadienne publiée il y a deux jours, que, comme t'expliquais, les 18 à 34 ans, qui est dite la génération Google,
oui.
qui vit avec cette technologie-là, que ce soit pour des transactions bancaires, que ce soit pour des films, que ce soit pour plein de choses de notre vie, ils s'attendent 3 sur 4, comme tu expliquais, à ce qu'on puisse avoir la technologie dans le système de santé.
Est-ce qu'on n'a pas encore beaucoup? On l'a pour certains produits, effectivement. Bon, on en a parlé avec la plateforme React. Il y a d'autres choses aussi. Je sais qu'il y a des médecins qui vont faire des rencontres avec Skype. Il y a des applications. Mais dans le concret, là, on perd même des rendez-vous. Les médecins perdent des rendez-vous. La Fédération des médecins spécialistes disait d'ailleurs, ce serait-il possible qu'à l'hôpital, là, on puisse envoyer des textos là, aux patients pour qu'ils puissent se rendre? Parce que nous, on est là, on attend. On perd des rendez-vous là, avec les patients.
Oui, puis je pense qu'un point hyper important là-dedans, c'est de la technologie, en fait, est un élément seulement. Et ce qui est super important, c'est l'ensemble des moyens, des politiques, des actions à prendre. La technologie, en fait, comme tu dis, elle est là. Il existe des plateformes pour plein de choses. Prendre des rendez-vous, faire des suivis virtuels, faire des prescriptions électroniques directement. Il faut que tout ça soit sécurisé. Tu parlais, par exemple, de Skype, qui est une plateforme qui est grand public, qui n'est pas dédiée au système de la santé. Alors, si quelqu'un veut faire des sessions pour des données confidentielles sécurisées, il faut qu'il s'assure que le médecin ou le professionnel doit s'assurer d'offrir aux patients une technologie qui va respecter les normes. Mais donc, le point là-dedans, c'est que non seulement il y a l'implantation de la technologie, mais il y a tous les processus de soins, le suivi du patient, les politiques gouvernementales, la rémunération. Fait que c'est là que l'Association médicale canadienne, dans l'étude, dit « c'est le temps » qu'on mette les choses en branle pour que ce soit implémenté.
Ouais, puis qu'on en parle aussi. Puis c'est ce qu'on va faire d'ailleurs dans la prochaine heure. Éric Parent, on le répète souvent, et c'est ce qu'on entend. D'ailleurs, ça semble être plus compliqué. Évidemment, il y a le gouvernement, il y a les médecins, il y a les intervenants également, il y a le patient aussi. On veut penser à la sécurité. Mais en même temps, on se dit, est-ce que ce serait si compliqué que ça que d'offrir des plateformes en techno? Des fois, on se dit, ouais, bon, ça va être lourd. C'est lourd, remettre tous les dossiers médicaux. C'est lourd, la sécurité. Qu'est-ce que tu en penses?
Le problème, abuse là-dedans, c'est généralement, c'est le gouvernement. Il n'y a rien de léger quand on parle de gouvernement. Moi, c'est ça qui m'inquiète là-dedans. C'est que quand on parle de ce genre de technologie-là qui viendrait du gouvernement, je vois des gros problèmes. Premièrement, ça va coûter 4 fois le prix que c'était supposé de coûter. Ça va être livré tout croche, etc., etc. On répéterait, c'est sûr, toutes les choses qu'on a faites dans tous les autres projets. C'est une certitude. Fait que si on donne ça à une entreprise, le gouvernement, exemple, donne un contrat à une grande entreprise qui va développer un logiciel, bien, c'est comme ouvrir le chéquier, là, puis on se met à écrire des chèques puis payer de l'argent. Quand c'est l'industrie privée qui le ferait, bien, on a l'espoir que c'est une entreprise qui est lancée, comme le produit de Yannick, et puis c'est quelque chose qui va être déployé, qu'il est conscient qu'il y a des coûts à gérer, que la qualité doit être là. Fait que c'est plus inspirant, finalement. Ça veut pas dire, hors de tout doute, que les produits dans le marché privé vont toujours être bons, mais c'est quand même possiblement mieux puis plus rapide que de laisser le ministère le faire. D'ailleurs, l'industrie privée, il servirait de bord. Il n'y a pas un Yannick qui fait... Lui, il fait un produit très spécifique pour interagir avec notre médecin, comme notre médzain de famille. Mais moi, je peux dire, ça fait 3 ans que je suis à la liste d'attente, puis depuis le début de la liste d'attente, finalement, oui. Même avant la liste d'attente.
On fait s'inscrire par Internet.
Ouais, c'est du eye candy. Là. C'est juste, ça donne l'illusion qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais je n'ai jamais eu de rappel. Moi, là, j'attends encore en ligne. Fait que vu que je suis pilote, je vois mon médecin pour ma licence de pilote. Puis à tous les ans, elle me dit, t'as pas encore de médecin de famille, toi? Il me semble, à ton âge. Fait que, il y a des applications. Il y a de l'industrie privée servirait de bord pour faire des applications comme Facebook, mais pour le milieu de la santé, pour te mettre en contact avec un médecin. Fait qu'on on recule loin. Là.
On va à la base.
Ben là, j'aimerais juste ça en voir un, en connaître un. Fait qu'il y a un gros problème. Puis si l'industrie de privé se réveille, ça prend quand même du temps. Hein. Ça ne s'est pas fait en un clin d'œil, ces applications-là, pour qu'ils soient publiés, qu'ils soient en fonction, qu'il y ait assez une masse de médecins qui contribuent pour que ça marche. Fait que ça veut dire que le ministère est en retard pas mal. Là.
Le ministère est en retard, mais en même temps, ça semble pas si compliqué parce qu'écoutez, quand on va sur Internet, je serais capable d'en faire une application moi-même. Ouais. Puis j'ai pas des grosses bases là, en technologie, là, soit-il en passant. Mais, puis même faire un courriel ou même juste faire un texto, me semble que ça prend pas des millions et des millions pour ça. Là,
ben, regarde, imagine, McDonald's a une application, puis quand ta commande est prête, là, ça te le dit sur ton téléphone. Tandis qu'on va aller attendre à l'urgence pendant 8, 12, 13, 14, 15 heures, puis il n'y a pas personne qui est capable de nous dire dans quel ordre qu'on est, ouais. Quand est-ce qu'on va passer, je peux-tu aller aux toilettes? Je vais-tu manquer ma place si je vais aux toilettes? Non, non, je vais me retenir. J'ai mieux péter ma vessie que manquer ma place. Fait que c'est pas normal. Ouais. Il y a un manque.
Docteur Yannick Beaulieu, je le disais, cardiologiste et aussi intensiviste, qu'est-ce qui pourrait vous aider dans votre pratique à tous les jours pour avoir accès, que le patient ait plus accès à vous, que ce soit plus rapide, notamment parce que vous êtes à l'hôpital Sacré-Cœur, l'Institut de cardiologie également. Qu'est-ce qui pourrait vous permettre justement que le patient soit vu plus rapidement?
Mais je pense qu'il y a deux côté à avoir là-dedans. Premièrement, c'est pas tout qui se fait en médecine virtuelle. Alors, quelqu'un qui a jamais vu un médecin, qui a mal à quelque part, tu sais, l'examen physique et l'évaluation en personne demeurent le gold standard, surtout pour des patients pas connus avec des nouveaux problèmes. Toutefois, dans à peu près toutes les cliniques, prenons par exemple les maladies chroniques comme la défaillance cardiaque. Il y a beaucoup de patients qui ont de l'insuffisance cardiaque et ils ont besoin, excusez-moi, de façon presque au jour le jour, ils prennent leur poids, ils ont peut-être besoin d'ajuster leur diurétique parce qu'ils ont accumulé de l'eau. Ils ont des questions sur des choses qui peuvent être très, très simples. Ben, présentement, il y a des programmes très bien structurés avec des infirmières coordonnatrices qui sont la porte d'entrée du patient. Le patient, s'il dit, ben, j'ai une gale qui s'est développée, ben, la personne peut dire, envoie-moi une photo, comment je te l'envoie. Alors, ouais. Il y a déjà des structures en place, surtout pour le suivi des patients. Puis là, ce qu'il y a besoin d'avoir, c'est, ben, OK, qu'est-ce qu'on utilise comme outil? Et ce bond-là, comme tu expliquais, n'est pas si grand à faire. Alors, la technologie est prête. Beaucoup des structures sont en place. Il faut plus que ce soit la volonté de dire, nous passons à cette ère-là et faisons une adoption de la technologie à plus large échelle pour permettre ces échanges-là.
Mais un commentaire là-dessus, ça, c'est super important. Si on n'arrive pas avec une solution, les gens vont s'en trouver une solution. Fait que là, on peut s'imaginer le médecin qui dit, je comprends que mon patient, il est peut-être vieux, il a une mobilité réduite, ou etc., etc. Il va lui dire, envoie-moi tes photos ou tes affaires, tes questions par courriel. Un courriel, là, c'est une carte postale. Mm-hmm. C'est pas la meilleure idée. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un risque concret? Non. Faut être réaliste quand même, mais c'est quand même pas idéal d'utiliser une carte postale pour des diagnostics médicaux.
Surtout que c'est quand même des données très sensibles. On parle d'état de santé, puis avec tout ce qui est carte d'assurance maladie bien souvent et tout ça. Là,
ben ouais. Fait que, tu sais, on vient juste d'avoir des cartes d'assurance maladie avec des photos dessus. Là. On était déjà en retard de deux décennies là-dessus. En tout cas, sans commentaire.
Oui, on va continuer à en parler dans la prochaine heure. Puis j'invite d'ailleurs les gens à communiquer avec nous. 1-866-790-9050-514-790-9050. Est-ce que vous seriez prêt, justement, vous, à aller vers les nouvelles technologies? Est-ce que ça vous ferait peur? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez avoir, que le médecin puisse vous texter plus rapidement à l'hôpital, avoir peut-être même une application qui vous dit le nombre d'heures? Ou encore même rencontrer un médecin virtuel pour vos suivis. 1-866-790-9850. – 10h22, on s'intéresse à la technologie en santé. Est-ce qu'on devrait se mettre à jour au Québec parce que ça s'est fait ailleurs? Pourquoi on n'est pas capable de le faire ici? On va parler avec Dr. Laurent Marcoux, qui est président de l'Association médicale canadienne. Bonjour, Dr. Marcoux.
Bonjour, Mme Brisson.
Dans votre rapport qui a été publié il y a deux jours, Façonner l'avenir de la santé et la médecine, clairement, là, on voit qu'il y a un grand, grand intérêt pour la technologie.
Oui, il y a un intérêt pour la technologie, particulièrement pour les 18-34 ans qu'on appelle la génération Google, mais aussi pour toute la population. Et cette enquête-là n'a pas été faite auprès des médecins, mais des médecins sont ouverts aussi à cette amélioration-là du système de santé.
Et là, on parle quand même d'intelligence artificielle et de réalité virtuelle aussi. Comment ça pourrait se traduire dans le milieu de la santé?
Bien, l'Association médicale canadienne a toujours eu le souci depuis plusieurs années de transformer le système de santé pour l'amener pour être plus fonctionnel, plus adéquat pour la population et surtout pour les médecins qui y travaillent, qui actuellement sont dans un fouillis d'antiquité, de communication, et ça aide pas ça. Ça aide pas leur morale et ça aide pas leur capacité d'exercer leur plein potentiel comme médecin. Et comment ça peut aider? Ça peut aider en évitant tous ces déplacements inutiles. Il y a encore des déplacements inutiles. Le Tom Beaulieu ne le fait pas tantôt. Il y a beaucoup de rencontres qui devront se faire avec un contact humain, médecin-patient, parce que la médecine est ainsi faite. Le médecin est un outil de diagnostic. C'est lui qui crée le diagnostic et de voir le patient, c'est plus qu'important. Mais il y a plein de choses dans les suivis, même dans certains diagnostics pour des personnes éloignées. Et le médecin peut être là, mais peut-être pas être là physiquement.
Mmh. Et ça pourrait désengorger le système de santé, vous pensez, à ce point-là? Si tout s'est mis en place, oui.
Absolument. Et là-dessus, j'ai une expérience personnelle. J'ai été consultant directeur médical pour les clés de la Baie James. Donc, si ça s'y lit, c'est pas tout à fait à la porte.
Non.
Et on a beaucoup de diabétiques dans cette population-là. Et on avait le souci de leur offrir un dépistage de la rétinopathie, de la maladie de la rétine qui occasionne le diabète. C'est un examen qui n'est pas très long, qui dure moins d'une demi-heure. Mais pour nos patients, qui étaient des centaines et des centaines, on devait les déplacer du territoire de la Baie James à Montréal pour un examen qui durait moins d'une demi-heure. Et pour ça, vous imaginez, pour les personnes âgées, ils devaient être accompagnées, les personnes qui avaient des infirmités devaient être accompagnées. Le coût financier énorme et le coût humain aussi d'avoir à venir à Montréal, aller-retour pour un examen. Et on a mis ça en branle et ça l'a aidé. L'année où ça a été fonctionnel, on a fait plus de 1000 examens. Donc, plus d'un million et plus de dollars économisés et beaucoup de satisfaction de la part des patients. Mais pour faire ça, il va falloir avoir une préoccupation première, la qualité des soins. La qualité des soins qu'on offre de cette façon-là. Toujours se poser la question, est-ce qu'on est allé à la fine pointe de la qualité lorsqu'on a changé une façon pour une autre? C'est important de décongestionner notre système de santé actuellement. On le voit, c'est le grand problème du système de santé canadien. Canadien, pas juste québécois, c'est d'être engorgé. Et pour cela, on se classe vraiment très mal au niveau des pays du C7, au niveau de la performance de notre système de santé. On est vraiment au pied de la liste, là, alors qu'on était, de 30-40 ans, un système reconnu pour les normes de l'époque et très performant.
Oui. Est-ce que vos membres sont prêts à aller de l'avant?
Nos membres seraient prêts, surtout nos étudiants, les futurs médecins, les jeunes médecins, certainement, qui sont prêts. Et beaucoup d'autres aussi. Parce que quand vous voyez dans l'enquête, mais il y a des obstacles à ça. Il y a des obstacles, dans le sens, vous parliez des méthodes archaïques qu'on utilisait comme le fax. Le fax n'existait plus si ce n'était pas du système médical. Ah. Et il existe parce qu'on nous dit, la commission d'accès à l'information, tous ces gens-là nous disent que c'est pas sûr, qu'on est mieux d'utiliser du fax. J'ai fait moi-même l'expérience récemment, le jour que j'ai envoyé des informations de laboratoire. Ils ont dit non, pas par courriel. Ne scannez rien, n'envoyez rien par courriel, envoyez-le par fax. Mais j'ai dit, je n'ai plus de fax jusqu'à ce que je découvre que mon ordinateur pourra faire des fax. Il va falloir ce qui est sécuritaire pour le système financier, le système industriel, qui communique quotidiennement des millions d'informations tous les jours. Et on n'entend pas parler qu'il y a du piratage de, tant que ça, de nos informations qui sont quand même précieuses quand c'est nos biens, tout ça, qui sont véhiculés comme ça. Il faut faire les choses comme il faut, et il est temps que tous ensemble, c'est pas la faute de l'un ou de l'autre, vous me demandez un peu ça, là. C'est un peu l'ensemble d'un système qui a oublié de se moderniser, de s'adapter à une nouvelle société que nous vivons, à une nouvelle technologie que nous vivons. Et là, c'est vrai pour les 18-34 ans qui disent « on veut plus ». De communication virtuelle, ça nous aiderait, parce qu'on a vu dans l'enquête aussi, en moyenne, ils consultent différents endroits 11 fois par année.
Oui, c'est beaucoup.
Ben, bien. Mm-hmm. C'est beaucoup, mais c'est parce que c'est des gens qui ont le souci de prévenir leurs problèmes.
Mm-hmm. Puis pas attendre justement qu'il y ait un problème pour le régler par la suite, puis justement, ça désengorge de toute façon-là aussi.
Absolument, absolument. Ouais. Et c'est la même chose, on ne s'est pas adapté pour ce qui est des soins aux personnes âgées. Et maintenant, la population est vieillissante. Et les personnes âgées, ça devient un problème parce qu'ils sont tous obligés d'aller à l'hôpital. C'est l'hôpital qui est le point d'accès pour le système de santé. Il faut changer ça. Il faut changer notre système de santé profondément. Et l'Association médicale canadienne en a fait, avec ses médecins, un enjeu important de modifier, transformer le système de santé.
Et d'ailleurs, vous allez en parler à Winnipeg dans les prochains jours, l'Association médicale canadienne. Ça fait partie, en fait, des sujets que vous allez adopter?
C'est le sujet principal de notre premier sommet de la santé. Je m'apprête justement à partir dans quelques minutes. Je trouvais très important de vous parler de cette chose-là. Et oui, on va parler des nouvelles technologies. On va parler de ça avec les médecins, d'abord, avec les médecins en formation, les jeunes médecins, les décideurs de la santé, les décideurs politiques, et même des patients seront là pour mieux vous dire comment ils veulent ça. Parce que là, le système de santé, la santé n'appartient pas au ministère, n'appartient d'abord à ceux qui payent des taxes et à ceux qui le consultent, qui l'utilisent. Et il va falloir qu'un jour qu'on arrête de dire « j'ai une idée de génie, je dois transformer le système de santé ». Non, j'ai une idée de génie. Qu'est-ce que les gens veulent dans leur système de santé? Qu'est-ce qu'ils ont entendu de leur expérience quand ils voyagent à l'étranger, puis c'est beaucoup mieux chez nous? Comment qu'on peut le faire? Et ce n'est pas une question de coût. Parce que quand on fait des choses, quand on transforme des choses, qu'on abandonne les anciennes choses, souvent, on est plus performant, plus efficient, à des coûts plus intéressants, plus avantageux.
Bien, Dr. Laurent Marcoux, je souhaite un bon colloque, un bon sommet à Winnipeg. On va bien sûr suivre les résultats, président de l'Association médicale canadienne. Merci d'avoir été avec nous.
Oui, suivez-nous parce qu'il y aura des choses importantes et nous sommes très fiers d'être un leader dans ce domaine. Et nous allons tous ensemble changer ce système de santé.
Bien, souhaitons-le ardemment parce que je sais qu'il y a des gens qui vous écoutent et qui disent « j'aimerais donc ça, juste avoir un médecin, juste en voir un ».
Oui.
Une fois par année, c'est possible. Merci beaucoup, Dr. Laurent Marcoux. Deux choses intéressantes. On a parlé, Éric Parent, d'antiquité dans le milieu de la santé et du fameux fax. Il l'a dit clairement, Dr. Laurent Marcoux, on lui a demandé à la place d'envoyer un courriel, un fax, que c'était plus sécuritaire.
Oui, sais-tu ce qui est drôle là-dessus? C'est qu'il y a deux jours, il y a eu une grosse découverte qui a été faite. Une grosse partie des fax qui existent peuvent être exploités. On peut envoyer un fax malicieux. Et puis, on va pouvoir prendre le contrôle du télécopieur et puis prendre le contrôle du réseau en arrière du télécopieur. Ça, c'est tout nouveau. Fait que qu'est-ce qui est drôle là-dedans? C'est une technologie qui est tellement ancienne qu'on l'oublie. Et puis là, il y a plein d'endroits. Les endroits dans le manufacturing, les manufacturiers de comme le linge, tout ça, font encore. Plusieurs industries font beaucoup affaire avec la Chine. Ça marche encore avec des fax, puis évidemment dans les hôpitaux. Alors, est-ce qu'on pense vraiment que le ministère de la Santé va avoir pris ça en charge, puis qu'ils vont en faire des mises à jour sur leur télécopieur dans les prochaines semaines? Je suis pas convaincu.
Docteur Yannick Beaulieu, est-ce que quand vous êtes à l'hôpital ou quand vous êtes en fonction, est-ce que vous avez des gens qui vous sensibilisent justement aux mises à jour des ordinateurs? Est-ce qu'il y a des formations qui sont faites au niveau de la technologie ou c'est plutôt on n'a pas le temps parce qu'il y a trop de patients, puis c'est, comme parlait le docteur Laurent Marcoux, il y a beaucoup d'obstacles, c'est difficile, c'est une antiquité, on travaille fort, c'est lourd?
En fait, ce que je peux dire à ce propos-là, c'est que les instances informatiques des hôpitaux sont tout à fait au courant, veulent changer les choses. Dans la plupart des centres, il y a beaucoup de choses qui se font, de sécurité, de modernisation. Parfois, ben, souvent, c'est des questions de budget. Hein, ils voudraient faire plus, puis ils ont les mains liées. Alors, je pense que les différents exécutants des différents centres hospitaliers, les CIUS, les CIS au Québec, sont vraiment à la page, amènent beaucoup de choses, sensibilisent les médecins, sensibilisent le personnel en entier et veulent faire avancer les choses. Je le vois dans mon propre système à l'hôpital Sacré-Cœur, à l'Institut de cardiologie, où il y a vraiment des belles choses qui se font. Mais parfois, ben, c'est des questions de ressources, de budget, mais ils pourraient aller plus vite et ils veulent aller plus vite. J'amènerais un point très important que Dr. Marcoux parlait, puis donnait un exemple quand il parlait de, puis je parlais avec Éric tantôt, de l'augmentation de l'efficacité, diminution des coûts, sans augmenter les coûts. Alors, je vous donne un exemple des collaborateurs avec qui on travaille d'une clinique qui s'appelle la clinique Parents Plus à Montréal, qui est dans le CIUS Centre-Sud, qui ont des ergothérapeutes très, très spécialisés, qui s'occupent, entre autres, de patients qui sont handicapés et qui ont de jeunes enfants. Alors, je vous donne un exemple. Si je suis handicapé, il me manque un bras, puis j'ai un jeune enfant, je dois apprendre comment l'allaiter, tout ça. Oui. Alors, cette clinique-là donne des services dans tout le Québec. Et ce qu'ils faisaient avant, c'était que s'il y avait une demande de consulte à Jonquière, quelque part au Saguenay, en Abitibi, bien, l'ergothérapeute se déplaçait pour y aller. Il y a quelques années, ils ont commencé à utiliser REACT et ils ont dit, bien, on va virtualiser tout ça. Et on va donc prendre une ergothérapeute locale, qui est très bonne, mais qui n'a pas toutes les compétences raffinées de l'ergothérapeute spécialisé. On va lui envoyer un code d'accès ou même une tablette avec une connexion cellulaire pour que ce soit vraiment tout inclus. Et cet ergothérapeute-là se déplace chez le patient qui est peut-être à 10 minutes de chez elle. Et ils font donc à distance une session qui peut durer 2, 3, 4 heures. Ils visitent l'appartement, ils donnent de l'enseignement, ils regardent. Et donc, la même intervention se fait à distance. Alors, quand ils ont regardé leurs données, pour 10 patients, ils ont dénoté une économie directe, c'est-à-dire en sauvant l'hôtel, l'essence, les repas, de 4 500. Alors, on se dit, ben, c'est pas beaucoup, mais on n'oublie pas, c'est pour 10 patients. Quand on regarde combien de temps ils ont sauvé,
parce qu'ils
n'ont pas 96 heures. Donc, 96 heures qui ont pu être allouées, avoir plus de patients à Montréal, à faire d'autres choses et tout. Et donc, si on transpose des données pour 10 patients, mettons-le sur 10 000 patients. Alors, au Québec, 8 millions de population, on s'imagine qu'il y a une grande composante de patients. Fait que 10 000, c'est tout à fait réaliste. Bien, l'économie de 4 500 $ direct devient 45 millions. Puis tout ce qu'ils ont eu à faire pour faire ce programme-là, bien, c'est une tablette qu'ils leur ont envoyée. Puis c'est l'expert qui s'est connecté. C'est la ressource qui n'a pas besoin, comme disait Dr. Marcoux dans l'entrevue, qui n'a pas besoin physiquement d'être là, mais qui a besoin de donner son opinion. Et donc, il y a des économies de masse avec une augmentation de l'efficacité de la satisfaction qui peuvent être faites aujourd'hui avec des moyens du bord, entre guillemets. Ouais. Fait que c'est ça qu'il faut pouvoir pousser puis mettre de l'avant.
Mais si le gouvernement écoute, le ministère de la Santé, Dr. Barrette, 45 millions, là, ça se prend bien. Hein? Tu sais, on peut réinjecter ça ailleurs aussi. Ça prend juste le petit effort supplémentaire. Puis on va continuer à en parler. Puis on va prendre vos appels aussi. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir communiquer avec nous. 1-866-790-9850. 514-790-9850. On parle de la technologie dans le milieu de la santé. Est-ce qu'on devrait en faire plus? Et je vous pose la question, est-ce que vous seriez prêt, vous, justement, comme le Dr. Beaulieu le disait, avoir votre tablette à la maison pour faire les suivis avec le médecin? Peut-être même en avoir un médecin, finalement. Ce serait le fun, hein? Et on est en compagnie du Dr Yannick Beaulieu, cardiologiste intensiviste et fondateur de technologies innovatrices d'imagerie, et aussi Éric Parent, qui est PDG de Eva Technologies, enseignant à la Polytechnique et au HEC en programme de cybersécurité. On s'intéresse ce matin à la technologie dans le milieu de la santé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour désengorger le système, nous permettre d'avoir un médecin, d'être plus suivi aussi? La technologie est là, est disponible, il suffit de s'en servir et de vouloir aussi finalement. On va prendre vos appels au 1-866-790-9850. Denis, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous seriez prêt à utiliser ces nouvelles technologies, mon cher Denis?
Ben absolument. Moi, j'ai deux commentaires à faire au niveau des urgences. Ils ont ouvert des cliniques, justement, pour désengorger les urgences. Ils ont mis des systèmes téléphoniques où on peut prendre un rendez-vous. Les systèmes téléphoniques ouvrent, exemple, à 6 heures le matin et à 6h10, 6h15, la journée est déjà complète. Alors, si dans la journée, au moment où moi, ça m'est arrivé une blessure en travaillant, je peux pas prendre rendez-vous à 6h le matin en disant que je vais me blesser à 2h30 l'après-midi. À ce moment-là, on s'oriente vers les urgences. Et puis, pour, je pense qu'il y aurait facilement moyen de désengorger les urgences en faisant un système de service rapide, en ce sens que moi, ma blessure nécessitait une piqûre contre le tétanos, des points de rapprochement et un pansement. J'ai attendu 8 heures à l'urgence pour avoir ça, et le médecin a participé à l'évaluation, ça lui a pris moins de 5 minutes. Il me semble qu'il y aurait moyen de faire que les cas rapides, puis je serais curieux de voir les statistiques au niveau de l'urgence où les gens vont pour un petit problème, parce que c'est pas le temps d'étaler tout un bilan médical lorsqu'on est à l'urgence, on veut traiter une cause spécifique. Je pense qu'il y aurait facilement moyen de désengorger, de faire en sorte que de vider la moitié, peut-être 25, 30, 40 % de la salle d'urgence, puis pas faire attendre les gens pendant 8, 10 heures juste pour un pansement, une piqûre, qui, effectivement, n'est pas faite par le médecin, mais qui est faite par une infirmière.
Oui, puis c'est vrai que quand on va à l'urgence, puis évidemment, on ne veut pas juger, quand tu n'as pas de médecin de famille, quand tu n'as pas une clinique qui est proche, tu as un problème de santé, tu as un bébé malade, des fois, ça peut être même une gastro, tu as envie de te faire hydrater. Des fois, les gens vont souvent à l'urgence, puis on dit que ce n'est pas la place. Mais je peux comprendre, quand tu n'as pas les services à côté, d'avoir une application, quelque chose qui pourrait te faire rencontrer un médecin rapidement, puis dire, regarde, va à la pharmacie, va chercher tel produit, ça pourrait peut-être aller, puis on va prendre un rendez-vous par la suite.
Dans ce sens-là, oui, effectivement, ça pourrait aider, mais la technologie peut pas tout faire. Quand ça prend une intervention d'un médecin, d'une infirmière, il faut qu'il y ait des ressources humaines aussi en arrière de tout ça.
Mm-hmm, exactement.
Pour répondre aussi à la technologie.
Mais et Denis, vous, est-ce que vous seriez prêt à rencontrer votre médecin de façon virtuelle? De le rencontrer par l'application qui pourrait être créée comme React, entre autres, ou d'autres types d'applications?
Ben, peut-être pour un renouvellement de prescription, dans certaines applications, ça pourrait probablement aller, parce que pour un renouvellement de prescription, les contacts peuvent se faire par l'intermédiaire du pharmacien. Sauf que si ça me demande, dès que ça demande une intervention médicale, un acte médical, à ce moment-là, c'est sûr que le virtuel peut pas tout faire.
Il prend le bord. On veut, là, mais pas à ce point. On n'est pas rendu là encore. Il n'y a pas encore des robots médecins non plus.
Pas assez évolué la technologie. On n'est pas rendu là, comme vous dites.
Ah, ben, puis tant mieux, au moins, de ce côté-là. Merci beaucoup, Denis, de votre appel. 1-866-790-9850. On nous parle du fameux carnet Santé Québec aussi. Ça a été une avancée quand même pour avoir notre bilan de santé, avoir des résultats aussi. Docteur Beaulieu, est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que c'est quelque chose dans le milieu que vous commencez à utiliser davantage? Parce que c'est tout nouveau. Puis je sais qu'il y a des gens qui ont eu de la difficulté à s'inscrire aussi, là.
En fait, on utilise comme médecin le dossier Santé Québec, le fameux DSQ, qui fonctionne quand même bien après plusieurs années de développement, où on peut aller voir un inconnu arrive, si on a ses coordonnées, mais que le patient est inconscient ou peu importe, on est capable quand même d'aller voir c'est quoi ses conditions, les derniers tests qu'il a eu, ses médicaments. Fait que ça, c'est quelque chose qui est quand même pas mal utilisé en milieu hospitalier. Pour ce qui est du carnet santé, je dois avouer que personnellement, j'ai pas eu à interagir avec. C'est beaucoup pour les patients, pour la population, puis je pense que c'est un excellent pas dans la direction de créer ces portails-là pour que les patients soient plus actifs dans le suivi de leurs soins de santé. Et donc, je pense que ce que Denis apportait comme commentaire, il y a des choses, comme dans ma propre hôpital, il y a un service qui a été développé, qui a été lancé il y a juste quelques mois, qui en fait, si la personne arrive, il y a un triage qui se fait, et si la personne, il y a des indicateurs qui peuvent dire « Ah, je te laisse partir, mais je te donne immédiatement un rendez-vous qui va être fait dans une clinique tout près à 2h cet après-midi. » Et donc, il y a beaucoup de belles choses dans le système qui sont en train d'être faites pour désengorger, pour réassigner les patients à des places qui vont être vues quelques heures plus tard à l'heure. Puis bien sûr, comme il expliquait, c'est évident qu'une grosse partie des soins demeurent qui ont besoin d'être faits en personne. Et là, la technologie, la façon qu'elle rentre, c'est de dire « Ah, j'ai sur un radar toutes les cliniques environnantes, je sais le temps d'attente. » Et le logiciel va dire, voici là où il faut que tu y ailles à telle heure, puis ton rendez-vous booké sans attendre. Fait qu'il y a quand même des choses qui s'en vont dans la bonne direction, disons. Faut juste que ce soit peut-être accéléré un peu plus.
Et on va parler avec Yves, bonjour.
Oui, bonjour à vous tous. Je suis Yves Hébert, d'Omnidesk.ca. Je prends le temps de le mentionner pour être certain que tout le monde comprenne bien que j'ai un parti pris. Mais ce que je voudrais expliquer, entre autres, c'est que, comme l'ont dit certains de vos collègues invités à l'émission, c'est que il existe effectivement de très bonnes solutions. Nous, notre solution a été développée pour les 10 000 médecins spécialistes du Québec et les 30 000 du Canada. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'optimiser les listes d'attente en médecine spécialisée. Par exemple, en orthopédie, on sait que c'est compliqué et c'est long d'avoir un rendez-vous. Alors, ce sont deux orthopédistes, comme le docteur Yannick Beaulieu, qui est un cardiologue, qui ont mis les deux mains à la pâte depuis 3 ans et qui ont développé une application qui est utilisée depuis 18 mois actuellement en Estrie et en Mauricie. Et si vous voyez les résultats, c'est incroyable. Mais c'est difficile de faire accepter par le ministère, par la machine, de s'asseoir et de regarder, puis d'évaluer, puis de voir comment on pourrait intégrer ça dans le fameux CRDS, par exemple.
Et vous dites que ça fonctionne bien. Expliquez-nous un peu le fonctionnement, c'est-à-dire c'est de façon virtuelle, c'est une application, je peux aller parler avec un médecin spécialiste?
Non du tout, non du tout. Cette application-là est pour aider les nombreux spécialistes qui ont des listes d'attente et pour améliorer. En fait, l'objectif, c'est de voir le bon patient au bon moment par le bon médecin. Parce que prenez, par exemple, en orthopédie, si vous avez un problème de genou et que votre omnipraticien vous donne votre prescription ou l'envoie dans le CRDS, elle se retrouve dans un bureau d'orthopédiste et l'orthopédiste, 2 mois, 3 mois, 4 mois plus tard, vous rencontre et vous dit, ben madame Catherine, il vous manque votre scan ou votre IRM, il vous manque tel dossier. Vous venez pour un genou, moi je fais seulement des épaules. Alors vous voyez, là, vous revenez dans la machine et c'est encore un 3 à 6 mois de délai. Alors c'est ça qu'on a développé pour optimiser avec tous les diagnostics et pour éviter aussi, puis le docteur Yannick comprendra très bien, le cherry picking de certains spécialistes. Parce qu'il faut pas se cacher qu'au Québec, il y a des spécialistes qui ne veulent faire que certaines choses et c'est pas comme ça que le système devrait fonctionner pour toujours, encore une fois, donner un bon service au client, au patient, à celui qui paye.
Oui, merci beaucoup Yves de votre appel et bravo aussi pour cette nouvelle technologie. On parlait que le privé allait se revirer de bord si le gouvernement le fait pas. Éric Parent, c'est un peu ça aussi.
Ben oui, mais le concept que je viens de voir là, c'est comme Uber. Uber, pour la personne qui conduit le Uber accepte la tâche, il sait pas où il s'en va encore. Parce que là, il pourrait le refuser. Il peut dire, ah, c'est comme une petite ride de 5 $, je ne le ferai pas. Fait que là, dans le côté spécialiste, il y a deux problèmes. Hein. Les spécialistes ont tout ce problème de coordination-là qui est assez évidente, que ça peut, tu peux attendre pendant 6 mois pour voir quelqu'un. Mais pour l'urgence, je pense que c'est clair qu'il y a plein de gens qui s'en vont à l'urgence. Regarde, ton enfant vient de commencer à la garderie. Là, il a été malade, t'as attendu à l'urgence. Ils ont donné une prescription. 2 jours plus tard, tu t'aperçois que ton petit morveux, là, il te l'a donné, son affaire. Là, il faut que tu retournes attendre à l'urgence. Inutile. Tu peux rester chez vous, tu peux faire ça à distance. Il n'y a aucune raison de retourner à l'urgence. Tu te réveilles, tu as un œil enflé, tout rouge. Pourquoi tu irais pour ça? Tu as une infection urinaire. Tu le sais que tu as une infection urinaire? Es-tu vraiment obligé d'aller attendre en ligne pour ça? Fait qu'il y a plein d'affaires qui pourraient faire que là, quand quelqu'un arrive, comme Denis disait tantôt, que tu as de quoi te briser, tu as besoin des points de suture, quelque chose de genre là, ben oui, ça passe en premier, mais tu n'es pas obligé d'avoir tous les autres qui sont dans les jambes.
10h48, on s'arrête et on continue de prendre vos appels après la pause. Continuez à le faire au 514-790-9850. h 50, on s'intéresse à la technologie en santé. On parle avec Simone. Bonjour.
Oui, bonjour. Oui, ça serait bon s'ils peuvent insérer un projet pilote pour que ce soit plus accessible rapidement de voir un médecin de famille. C'est important de voir un médecin de famille. J'en ai eu un pendant 7 ans. Il a pris sa retraite.
Ah, et là, vous êtes pris pour en trouver un autre.
Oui, fait que là, je suis inscrite au guichet, mais j'attends depuis mai 2017. Et en attendant, c'est sûr, moi j'ai d'autres, j'adopte des méthodes alternatives avec Joanne Verdant et la naturopathie, ça me sauve beaucoup la vie. Mais là, j'ai fait une chute au mois de mai, puis j'aurais aimé avoir un diagnostic si j'ai cassé quelque chose ou n'importe quoi. Et puis là, ça fait quelques jours, parce que j'ai des crises ces derniers jours, j'essaye d'aller dans les cliniques sans rendez-vous. J'appelle, c'est marqué appeler à 7h du soir, j'appelle à 7h-5, il y a 20 médecins. Ils peuvent prendre 50 rendez-vous et déjà, il n'y a pas de place. Ça fait 3 jours, j'essaye ça avec les 2 cliniques, sans rendez-vous, puis je n'arrive pas. J'aimerais ça, voir un diagnostic.
Vous allez être obligé d'aller à l'urgence, Simone, parce que c'est ça.
Je n'ai pas le goût d'aller à l'urgence.
Mais non, c'est sûr.
Je vais aller voir Joanne Verdon. Ça va apporter flux plus rapidement.
Mais merci beaucoup, Simone, de votre appel. Il y a Bonjour Santé aussi qui a été inauguré où on peut trouver un médecin de famille quand même, moyennant, bon, avec le numéro de la carte soleil, on peut un certain montant puis on peut avoir un rendez-vous. Ça, c'est une façon aussi. Oui, Éric, je vais te donner le site Internet.
Bonjour,
tu vas pouvoir y aller, oui. Oui, non, j'ai déjà essayé. Ça fonctionne quand même. On va le dire, qu'est-ce qui fonctionne quand même dans le gouvernement. Là, ça a bien été. Qu'est-ce qui manque justement dans le système de santé au niveau de la technologie, si je vous pose la question vraiment? Qu'est-ce qu'on devrait faire davantage davantage? Est-ce que parce qu'il manque pas de ressources dans le sens que les gens, il y en a qui veulent apprendre, il y en a qui sont là, qui sont disponibles aussi. La technologie est là, est présente. La réalité virtuelle, l'intelligence artificielle aussi. À Montréal, surtout au Québec, on est très très fort dans ce domaine. Il manque quoi?
Mais je pense à part la volonté, le vouloir, ouais. Le vouloir de pas se complexifier la vie, là, de prendre des décisions un peu plus rapidement, de pas toujours se backer et d'attendre que tout le monde soit d'accord. À un moment donné, il faut avancer. Sinon, ça va se faire tout seul, là, comme on disait tantôt. Mais ça avance juste pas à une vitesse qui est très, très impressionnante. Là.
Mais ça avance juste pas. Est-ce qu'on devrait mettre quelqu'un, un directeur de la technologie au niveau de la santé? Peut-être pas rajouter un autre comité, parce qu'il y en a pas mal aussi au Québec.
Oui, mais c'est, là, ça qui c'est ça qui m'inquiète. Moi, je veux pas être pessimiste, mais j'ai tendance à, vu que je suis en cybersécurité, tendance à penser un peu de même. Je me dis, il y a beaucoup d'argent à garder le problème, à rendre ça compliqué, puis à faire ça long. Moi, je suis plus entrepreneur, je suis plus tasse-toi, puis on va le régler, le problème. Puis c'est ça qu'on voit rarement dans tout ce qui est ministère, là.
Mais au niveau de la confidentialité, je lisais justement, puis je reviens avec le rapport de l'Association médicale canadienne, on dit que les gens, en fait, compromettent les données personnelles, la confidentialité liée à la technologie. Ça ne suffit pas davantage que de perdre le contact humain. C'est-à-dire que le contact humain reste quand même très, très, très important, mais les données, c'est un petit peu moins important pour les gens.
Oui, en général, oui. Je pense que si tu donnerais le choix à un patient potentiel, est-ce que tu veux qu'on mette l'emphase sur la sécurité ou tu veux que je mette l'emphase sur je vais voir un médecin cette année? On va toujours prendre je vais voir le médecin cette année.
Puis on se fout un peu des données personnelles à ce moment-là.
À ce point-là, oui.
Moi, par rapport à ta première question tantôt sur qu'est-ce qui se fait et tout ça, je pense qu'il y a vraiment des belles choses. Je pense qu'il faut être positif quand même. Il y a des belles choses qui se font. Par exemple, la semaine dernière, quand la Fédération des médecins spécialistes a mis son plan d'action, là, ce qu'ils ont développé, il y a une grande place là-dedans pour toute la collaboration entre les professionnels, la médecine virtuelle, la télésanté, pour pouvoir augmenter donc et implémenter ce qu'on a parlé. Le ministère a nommé M. Paul Larchevêque comme directeur de l'innovation pour voir comment on peut implémenter les technologies au Québec. Alors, je pense qu'il y a des choses qui avancent. La seule chose, c'est qu'il faut s'éloigner de ce qu'on appelle la pilotite, là, c'est-à-dire faire des projets pilotes pour tout. Il y a des solutions qui fonctionnent, qui sont bien démontrées. Il faut les implémenter ou à tout de moins rendre les choses plus faciles pour les implémenter. Je pense que les ressources sont là, la technologie est là et c'est pas une question de coût additionnel. C'est simplement, c'est la gestion du changement, d'avoir la volonté de les mettre de l'avant. Fait que je pense que les pas dans la bonne direction sont pris, mais il faut que ça aille plus rapidement parce que on est prêt à faire ce changement-là.
Et pour REACT, la plateforme que vous avez fondée, Dr Beaulieu, ça a pris quand même du temps là, avant que le ministère donne son aval pour que ça soit utilisé.
Ben en fait, tu sais, pour bien faire les choses, puis comme disait Eric tantôt, il y a quand même des processus importants à passer. Et quand on a dit, nous, on était déjà tout bien sécurisés dans tous les aspects, mais pour pouvoir avoir une plus grande facilité d'implémentation au Québec, on a passé à travers le processus de certification technologique du ministère de la Santé, mais qui a pris presque un an à vraiment passer à travers tout ça. Et là, une fois que c'est fait, tu as le rubber stamp, comme on dirait en bon français, et ce qui facilite beaucoup, parce que ça donne de la confiance aux gens du réseau qui sont très, très soucieux d'implémenter des choses sécuritaires. Mais encore là, c'est souvent le processus de temps qui est assez ardu.
Mais chose intéressante, juste pour le rajouter, c'est que lui a fait ce processus de certification-là qui est très bien. Là, on fait affaire avec une tierce partie. On veut qu'il nous réassure, qu'il nous assure que c'est bien fait. Mais la majorité des hôpitaux ne passeraient pas cette certification-là.
On est passé en 2018, finalement. On est resté quoi? Avec des logiciels de...
Bien, encore des logiciels qui datent comme Java, qui est à cause que des applications qui ont été développées dans le temps puis qui n'ont jamais été supportées. On garde des vieilles versions de Java qui datent de 3-4 ans, qui sont hyper vulnérables parce qu'on a cette vieille application-là là, que personne n'a développée, finalement. Fait, quand on va dans un modèle comme le modèle de Dr Beaulieu, bien, c'est merveilleux parce que là, c'est lui qui est en charge de le tenir à jour, de s'assurer que ça maintient un niveau de certification.
Et il est sur le terrain aussi.
Ben oui, fait, ben
c'est
oui,
comme un deux dans un. Julie, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, Julie, vous êtes infirmière pour une plateforme virtuelle.
Exactement. En fait, j'ai vraiment eu envie de réagir aujourd'hui parce que vous seriez vraiment surprise de tout ce qu'on peut faire au niveau virtuel et de tout ce qu'on peut voir et du support qu'on peut amener là à la population en général pour éviter que les gens aillent dans les cliniques physiquement là, je veux dire.
Mais qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que vous parlez avec les gens, vous les voyez, en fait, avec la caméra, puis vous êtes capable de dire, allez voir votre médecin ou prenez tel truc?
Oui, exactement. Mais en même temps, il y a du chat. En gros, ça se prend, c'est vraiment par chat. On a accès à la caméra aussi, mais on est capable de voir beaucoup les symptômes d'infection urinaire, de la dermatologie, de la santé mentale.
Merci beaucoup, Julie. L'émission se termine, mais merci de votre appel parce qu'effectivement, on se rend compte que ça se fait. C'est là, puis c'est là pour rester également. Merci beaucoup, Dr. Yannick Beaulieu, d'avoir été avec nous, cardiologiste intensiviste, fondateur de technologies innovatrices d'imagerie. Éric Parent également, merci d'avoir été là.
Bienvenue.
Merci.